Nous allons poursuivre par notre sujet principal, une visite aux rencontres professionnelles du logiciel libre. J'y étais il y a 2 semaines, le 10 juin, et j'ai interviewé plusieurs participants et participantes que vous allez pouvoir écouter comme si vous y étiez. Cela se passait à Lyon, au sein des locaux de la métropole du Grand Lyon. J'ai pris le train, tôt le matin, depuis Paris, et j'ai retrouvé ma coéquipière, Françoise Conil, élue au conseil d'administration de l'April en 2024. Nous avons été accueillis par un petit déjeuner, et ensuite on a pu déambuler entre les stands des entreprises et des associations qui nous ont montré plein de choses très intéressantes sur comment installer et utiliser les logiciels libres et surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec. Quand on est une entreprise, une association, une collectivité ou un organisme. Nous avons également assisté à des mini-conférences qui montraient des cas d'usage et des retours d'expérience. Ces rencontres sont organisées par PLOSRA, qui est une communauté des entrepreneurs du logiciel libre, et cette année était la 4e édition. Il y avait 21 exposants et une 20aine de mini-conférences. Sans plus attendre, rendons-nous sur place et écoutons. Alors, je suis Julie de l'émission Libre à vous et je suis venue aux rencontres professionnelles des logiciels libres et je suis avec Philippe Scafoni.
Scafoni, presque.
Pardon, Scafoni.
Ouais, c'est pas simple, je sais. J'ai l'habitude, c'est pas grave.
Qui est membre de l'organisme qui a préparé cet événement.
Voilà, je suis le président de l'association PLOS Rhône-Alpes, effectivement, depuis 3 ans maintenant.
Alors, pour les auditeurs de Libre à vous, pouvez-vous nous dire pourquoi est-il important d'organiser les rencontres professionnelles du logiciel libre ?
Alors, les rencontres professionnelles du logiciel libre, c'est un peu l'action phare un peu pour notre association, je dirais au cours de l'année, hein, parce que c'est ce qui nous demande le plus gros investissement en temps humain et en moyens. Donc, pour nous, c'est un moment important parce qu'il manquait effectivement sur la région un événement dédié aux professionnels. On avait déjà les journées du logiciel libre, mais qui était plutôt sur le volet citoyen, le campus du libre, plutôt orienté étudiants. Je dirais enseignement supérieur. Puis il manquait effectivement un événement professionnel sur lequel bon, on puisse venir, nous, acteurs de la filière, hein, puisque le PLOS Rhône-Alpes propre, a pour membre des entreprises dont le métier est de mettre en place et de proposer des logiciels libres à leurs clients. Donc ça nous paraissait quelque part naturel de se dire il faut faire cet événement là en région. Il y a des événements de ce type là qui ont lieu à Paris, il y en a eu à Bordeaux, il y en a dans le sud de la France aussi, mais on n'avait pas d'événements comme ça un peu visibles et récurrents surtout, hein, puisque là on en est à la 4e édition et chaque année on essaie un petit peu de faire rentrer un peu plus cet événement dans les habitudes de toutes les entreprises, les collectivités locales qui peuvent effectivement avoir besoin d'un interlocuteur professionnel dans le cadre de leur usage du logiciel libre.
Ok, oui, c'est vrai que c'est une, je trouve, très bonne démarche de faire un événement dédié aux professionnels. D'ailleurs, j'ai rencontré tout à l'heure dans le salon un monsieur qui est venu expressément du Cameroun.
Oui.
Voilà, pour faire une démarche d'implémenter des logiciels libres dans son entreprise qui est un média. Mm-hmm. Voilà, vous avez vu, je vois.
On l'a vu.
Oui. Merci pour cette présentation. Et du coup, cette année, après ces 4 années, donc, vous m'avez dit...
C'est la 4e édition.
Voilà, 4e édition. Mm-hmm. Donc, quelles sont les nouveautés, les modifications que vous avez apportées ?
Alors, chaque année, on peaufine un petit peu plus l'événement. On avait, l'an passé, on avait mis en place effectivement un flux de conférences, c'est-à-dire qu'avant on avait plusieurs conférences en même temps, mais du coup les gens s'éparpillaient, ils hésitaient, ils allaient à l'une et pas à l'autre, et des fois ils étaient déçus de pas avoir vu certaines conférences parce qu'elles avaient lieu en même temps. Donc là en fait on a pris un parti pris de faire des conférences alors très courtes, puisque là cette année on a même réduit à 15 minutes le temps de ces présentations. L'idée c'est effectivement 15 minutes de présentation, il n'y a pas de questions-réponses. Mais c'est les personnes qui sont intéressées, qui veulent plus de détails, peuvent aller après effectivement sur la partie exposant, rencontrer le conférencier, échanger avec lui, et puis là prendre le temps effectivement de poser toutes ces questions et d'avoir les réponses qui vont avec. Voilà, donc on a densifié encore un peu plus cette année le nombre de conférences. On verra l'an prochain si on garde ce format-là ou voilà.
Oui. Alors, pour parler un peu plus du libre, comment, de votre point de vue ou de celui de Plocera, percevez-vous le contexte économique et politique autour du logiciel libre ?
Alors, sur le plan économique, on est une filière. Alors, on n'a pas pu encore faire de grande enquête, entre guillemets, mais on aimerait bien en faire une sur la région prochainement. On sait qu'au niveau national, c'est une filière qui se développe fortement. Plus vite, on va dire, que la filière du numérique traditionnel, la société de services. Donc on a beaucoup de structures qui sont en croissance continue, régulière, et quand on regarde chez nos membres, on voit bien que ces structures-là se portent bien, se développent bien. C'est pas forcément des structures qui vont générer des millions et des millions de résultats, parce qu'on est sur un modèle économique où effectivement on vend avant tout de la prestation, on vend pas de la propriété intellectuelle ou de la rente, donc ça permet pas de dégager autant de marge que ce que peuvent faire nos confrères des logiciels propriétaires. Mais toujours est-il qu'on arrive effectivement à travers nos modèles à avoir une rentabilité et d'être viable en tant qu'entreprise, de pouvoir recruter, payer nos salariés, etc. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire la filière se porte bien. Sur les aspects alors politiques, c'est un peu plus moi, l'évolution que j'ai vue entre guillemets ces 10 dernières années, alors plus par rapport au secteur public et à son appétence pour le logiciel libre, je trouve qu'on est passé de, il y a 10 ans, le discours qu'on pouvait recevoir, c'était nous, vous savez, on est ni pour ni contre. Voilà, ok, bon, mais vous restez sous Microsoft, oui, ok. Alors qu'aujourd'hui, les discours qu'on peut avoir et qu'on peut entendre, notamment ce matin à l'ouverture de la plénière, que ce soit de la ville de Lyon ou de la métropole, sont des discours où le logiciel libre devient à des niveaux de plus ou moins importants, mais devient une exigence, quelque part, pour des questions de souveraineté, de maîtrise de l'informatique et de ne plus être, entre guillemets, un peu prisonnier de changements commerciaux ou de décisions arbitraires de certains éditeurs. Donc il y a une vraie évolution, je dirais, favorable aujourd'hui pour moi au logiciel libre, même si tout n'est pas gagné, même s'il reste encore des combats à mener sur l'ergonomie des logiciels, sur leur facilité d'utilisation. On le disait ce matin aussi sur l'accompagnement au changement. Effectivement, on change les habitudes des gens, c'est plus Outlook, c'est un autre logiciel. Donc c'est un travail, ça reste un travail important à mener.
Merci beaucoup, Monsieur Scofoni, pour quand même ce message que j'ai perçu positif et motivant pour les acteurs du logiciel libre et les personnes qui veulent entrer dans le logiciel.
On est très motivés.
Oui. Alors, je vais interviewer le maximum d'intervenants dans ce salon et merci beaucoup de l'avoir organisé.
C'est moi, merci.
Je suis maintenant avec Jean-Michel Armand de l'entreprise iBird. Cette entreprise est créatrice du logiciel Crème. J'adore ce nom.
Merci.
Alors, Crème est un logiciel, est un CRM libre. Alors un CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client.
Oui, exactement.
Jean-Michel, donc vous êtes à titre personnel adhérent à l'April depuis 21 ans.
Oui, ça commence à faire.
Oui. Et au titre de iBird depuis quand même au moins 15 ans. Donc merci beaucoup. Pourquoi c'est important pour vous donc d'adhérer à l'April ?
Alors, moi, je suis libriste depuis très longtemps. J'ai presque, depuis mes années lycée, on va dire. Et à l'époque, donc, quand je suis arrivé en école, en études supérieures, j'avais envie de... On dirait que les années 2000 n'étaient pas aussi propices au logiciel libre que maintenant. Et à un moment ou à un autre, ça me semblait important de faire des choses de mon côté, donc d'avoir une démarche militante active, mais aussi autant que possible de soutenir les assos qui militaient. Donc du coup, clairement, le logiciel libre France, April. Donc du coup, 2003, première adhésion April.
Et nous pourrions parler du modèle économique du libre et le modèle économique des entreprises comme vous, qui vivent du logiciel libre, et ce modèle est-il en train de changer? Comment est-ce que vous voyez le futur? Alors, par ailleurs, tout à l'heure, j'ai interviewé monsieur
cacophonie de l'organisme Plocera, qui a eu un discours assez positif et motivant même, je dirais, en parlant de développement et de croissance du contexte économique du logiciel libre. Donc vous, comment voyez-vous le futur de cette économie ?
Oui, alors c'est vrai que je serais assez d'accord avec Philippe. On va dire que même si on a encore un peu des freins, il y a souvent eu au démarrage, il y a quelques années, il y avait souvent, on va dire, une frayeur des entreprises d'utiliser le logiciel libre, etc. Ça s'est pas mal réduit. Bon, il y a toujours de temps en temps des petites frictions, des petites ah mais vous faites du logiciel libre, est-ce que c'est... Mais on a enfin passé l'étape et donc on a de plus en plus de gens qui, de plus en plus de projets qui sont en demande spécifiquement de logiciel libre. D'ailleurs, dans les appels d'offres publics, souvent c'est avec du logiciel libre, c'est un critère obligatoire. Et voilà, donc on a vraiment une vraie appétence qui s'est créée chez nos clients ou chez nos futurs clients pour avoir du projet en logiciel libre, parce que du coup, à un moment ou à un autre, ils ont pu voir que ça marche, ils ont pu voir que les projets fonctionnent, ils ont pu voir que des partenaires utilisent des logiciels libres et que ça fonctionnait bien. Potentiellement, ils ont eu des mauvaises expériences avec du logiciel propriétaire et donc du coup, ils n'ont pas forcément envie de reproduire ça. Ça peut avoir, dans notre branche, on a souvent des entreprises qui en rachètent d'autres, donc des gammes de logiciels qui s'éteignent et où ils ont juste pas la main. Et donc, ils ont envie de se dire, OK, on veut avoir plus de sécurité, plus de... l'accès au code source, c'est quand même important. Et donc, du coup, oui, je pense qu'il y a une vraie... on va pas dire une explosion, mais il y a une vraie demande. Il y a vraiment des gens qui se disent, OK, on veut du libre et ça devient... un vrai critère. Il y a aussi un autre. Alors, on va dire que c'est un peu plus à la marge, mais il y a de plus en plus des vrais critères de démarche RSE des entreprises, etc. Et j'ai envie de dire que de par leur appétence pour le logiciel libre, des choses comme ça, les entreprises qui font le logiciel libre sont souvent plus réceptives et plus en avance sur tous ces points de démarche RSE. Et donc donc c'est du indirect, mais ça aide aussi. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la même mouvance là-dessus.
Pouvez-vous juste nous préciser qu'est-ce que c'est RSE ?
Alors, c'est tout ce qui est... C'est le...
Marche sociale.
Oui, sociale et le R, je ne sais plus, mais oui. C'est social et écologique, je crois, ou social et... c'est tout ce qui va être pour dire... c'est toutes les choses qu'on va mettre en place sur... Ça va être très, très large, mais sur l'égalité des salaires, hommes-femmes, sur la parité, sur... Et puis, sur aussi le fait d'avoir... une infrastructure verte, d'avoir de faire des démarches pour réduire ses émissions de carbone ou autre. Voilà.
Oui, je pense que d'ici quelques années, il y aura des objectifs RSE à atteindre pour les entreprises obligatoires. Et du coup, le logiciel libre et l'économie du libre pourra aider à atteindre ces
critères. Oui, j'ai un peu l'impression que sur ces sujets-là, on est parfois un peu en avance.
Oui. Voilà. Ouais. Donc, de ce que j'entends ici au salon, j'ai l'impression qu'il y a un petit switch, comme vous parlez de frayeur du logiciel, et il commence à y avoir les mentalités commencent à changer, une société qui se crée.
Il y a quand même. Oui. On va dire, ça fait plus de 20 ans, donc.
Oui. Oui,
heureusement, ça a pris du temps, je pense qu'il y a. Puis il n'y a qu'à le voir sur le salon qui se monte, qui est un peu plus grand tous les ans, où il y a des gens qui viennent. Il y a des événements logiciels libres, il y en a.
Les politiques qui s'emparent.
Oui, je pense qu'on est sur un cercle vertueux pour continuer à utiliser des expressions qui vont bien.
Merci beaucoup Jean-Michel Armand. Et on va continuer à interviewer les entreprises dans les rencontres professionnelles.
Merci à vous.
Je suis maintenant avec Marie-Jo Kopp-Castinel de l'entreprise OpenGo, spécialisée dans la bureautique libre, mais Marie-Jo va nous en parler. Vous êtes aussi membre... Vous êtes donc membre de l'April. Et je suis aussi également avec Damien Renoux de l'entreprise Bâtisseur Numérique, qui va donc interagir avec Marie-Jo Kopp-Castinel parce qu'ils ont des sujets en commun. Alors, Marie-Jo, pourquoi, dans un premier temps, avoir adhéré à l'April ?
Parce que je défends le logiciel libre depuis à peu près 2003. où je m'étais engagée dans le projet Open Office. Et l'April est arrivé à peu près à ce moment-là et qu'on se voyait sur tous les salons avec Fred et que du coup c'était évident d'adhérer à l'April qui pour moi est essentiel pour défendre le libre.
Et donc dans vos activités, quelle est la part des collectivités, des entreprises qui utilisent des solutions bureautiques libres? Quels sont les avantages à utiliser ces solutions?
Alors OpenGo est en effet spécialiste du poste de travail libre et notamment de l'accompagnement aux migrations vers des suites bureautiques libres, notamment LibreOffice. Les avantages, beaucoup dans les collectivités, mais quelques entreprises également, mais principalement dans le monde collectivité. Les avantages sont multiples, on ne va pas résumer en 5 minutes les avantages du libre, mais bon, il y a toujours la notion de souveraineté, il peut y avoir une question de développement durable, tout un tas de choses comme ça. Après, les difficultés, c'est qu'on touche au poste de travail, donc il faut un accompagnement pour accompagner les utilisateurs, puisque c'est sensible, puisqu'on touche au poste de travail. Donc on change les habitudes de quelqu'un. Et donc OpenGo a également une plateforme e-learning complète, alors sur LibreOffice notamment, mais pas que, sur la plateforme Chamilo. Et je laisse la parole à Damien, qui est Monsieur Chamilo.
Oui, merci Marie-Jo. Moi Damien Renoux, société Bâtisseur Numérique, et donc je suis membre de l'association Chamilo, qui est une association européenne.
Moi aussi.
Marie-Jo aussi est membre de l'association. Et donc Chamilo, c'est quoi? C'est une plateforme donc, pour favoriser et diffuser l'apprentissage en ligne, la retransmission des compétences, depuis 2010, donc depuis 14 ans. Et nous avons aujourd'hui 37 millions d'utilisateurs. Et en France, la plateforme commence à s'installer doucement dans les régions et dans les écoles. Donc ce qui nous fait un grand plaisir. Puisque c'est le challenger un petit peu de la plateforme Moodle, qui est bien connue, qui est une fondation australienne. Et donc le fait qu'il y ait une solution européenne qui revient en avant nous fait extrêmement plaisir.
Et alors du coup, les bâtisseurs numériques et même OpenGo, à quoi ça vous sert, Chamilo? Qu'est-ce que vous en faites? Comment elle fait partie de votre activité?
Alors, la plateforme Chamilo, en fait, permet de diffuser de la documentation pédagogique et des modules de formation auprès d'un public d'élèves, de stagiaires ou de professionnels en entreprise. Donc, ça permet de faire le lien avec la formation en présentiel à travers des modules d'auto-formation ou pour compléter un petit peu la formation, en fait, qui existe déjà sur le terrain.
Ok, merci. Et vous, donc, un bâtisseur numérique, quelle est votre activité principale?
Alors, mon activité principale, c'est d'installer des plateformes Chamilo. De rajouter des fonctionnalités à Chamilo pour D'accord. que les professeurs, les formateurs et nous-mêmes puissions fabriquer des modules très facilement. Donc des modules qui sont proches des utilisateurs, donc du terrain, principalement.
Okay. Merci Damien Renoux. Madame Marie-Jo Kopp Castinel, Marie-Jo, Libre à vous est sensible à la place des femmes dans le monde du logiciel libre. Et donc, comment ressentez-vous donc la place de la femme dans le logiciel libre? Donc, vous m'avez fait part.
Alors, la place de la femme essentielle dans la société en général, oui. Plus que jamais aujourd'hui. Et en effet, dans le logiciel libre, on est très peu de femmes. Alors, oui. Il y en a beaucoup à l'April quand même, de plus en plus, avec une présidente oui. femme. Mais malheureusement, et on se pose la question, pourquoi le logiciel libre particulier? Déjà, l'informatique. Il y a moins de femmes. Mmh. Mais pourquoi le logiciel libre, on n'arrive pas à avoir plus de femmes qui s'impliquent? C'est une vraie question qu'on se pose. Je suis souvent la seule femme dans toutes ces réunions.
Oui, voilà. Notamment à Plocera.
À Plocera, notamment, voilà. Et puis à d'autres endroits aussi. Oui. Bon, il y a des associations comme l'April ou l'Aldi, la Lyon, où il y a quand même de plus en plus de femmes. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir plus de femmes qui s'investissent en termes de bénévoles dans ces trucs-là?
Oui.
Voilà. Okay. Donc, on est sensible aussi.
Ben, merci bien d'avoir consacré 5 minutes juste avant vos conférences, la journée sur les chapeaux de roue. Merci Marie-Jo et Damien.
Merci Julie.
Je suis maintenant avec Salomé Yaya Chérif de la coopérative Les Tilleuls. Alors Salomé, pourquoi une organisation en mode coopérative? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une coopérative?
Alors la société donc coopérative, c'est un mode de fonctionnement un peu particulier parce que chaque salarié est actionnaire de la boîte. Okay. L'entreprise appartient à tout le monde.
Okay.
Ce qui va nous distinguer, c'est qu'on va prendre les décisions tous ensemble. On fait des assemblées générales régulièrement et tout le monde peut participer aux décisions de l'entreprise, donc une personne égale une voix. Ça permet d'avoir une hiérarchie qui est assez plate, et surtout on a choisi ce modèle parce que ça nous permet d'impliquer vraiment les coopérateurs dans la vie de l'entreprise. On est aussi très impliqué au niveau social et on a beaucoup d'avantages en interne. On a par exemple développé le congé menstruel, mis en place des congés exceptionnels et plus de flexibilité. Et on est aussi acteur de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Donc on a aussi un projet social qui est assez fort.
Ok, donc vous c'est bien, vous accordez une place à la femme.
Oui, là, et très importante.
Voilà. Et alors, les tilleuls, qu'est-ce que vous faites concrètement? De quoi s'agit-il? Quels sont vos membres? Quelles sont les activités?
Alors, on accueille tout type de clients, tout type d'entreprises, peu importe la taille ou la forme, dans le développement d'applications web et mobiles. Donc on peut soit faire du développement pur, soit des audits, du conseil. On est aussi un organisme de formation, donc on est certifié Calliope. Et on est aussi sur tout ce qui est partie SRE, développement, infrastructure, etc. Donc on les accompagne à développer leurs projets, que ce soit de A à Z ou en intégrant des équipes.
D'accord. Alors, donc si je comprends bien, vous avez des associés qui sont membres de la coopérative.
C'est ça.
Et vous, ensemble... vous avez des projets donc d'accompagnement de création
de projets web. Voilà, en fait, on est 70 actuellement et tous nos devs sont répartis en missions. Donc, ça peut être des missions qui sont longue durée ou des projets qui sont très courts et chacun participe à différents projets en fait.
D'accord. Et alors. Donc la place du libre dans vos activités.
Alors il y a une place assez importante. Nous déjà, on la structure Les Tilleuls en elle-même, on est membre de la Symphonie, de la Core Team Symphonie. Donc on participe beaucoup au développement du langage, donc on le maintient et on contribue. C'est la même chose, on fait partie de la PHP Foundation et en interne on a développé deux logiciels libres, donc API Platform et FrankenPHP. Qu'on utilise auprès de nos clients également. Donc, on participe non seulement à contribuer à des logiciels libres de base, mais aussi à en créer nous-mêmes et à les utiliser dans les projets clients.
Et donc, vous m'avez dit que vous incitez les développeurs à
contribuer à l'open source.
À contribuer à l'open source.
C'est ça, exactement. On a beaucoup de coopérateurs qui sont très actifs dans le monde de l'open source. Donc, que ce soit PHP, Symfony, mais aussi sur du JavaScript, pour aider à améliorer les logiciels libres et permettre à chacun d'avoir accès à des améliorations qui peuvent bénéficier à tous.
Merci beaucoup, Salomé. C'est une belle aventure, hein, une grande coopérative. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je suis maintenant avec Claudine Chassagne de la ville de Saint-Martin-d'Uriage, une ville qui se trouve dans le département de l'Isère. Donc, Madame Chassagne vient de faire une conférence aux rencontres professionnelles du logiciel libre. La conférence vient de se terminer, donc je suis venue voir Claudine directement pour lui poser quelques rapides questions. Merci d'avoir accepté. Alors, dans votre collectivité, de quelle manière êtes-vous impliqué dans le logiciel libre et quels usages faites-vous du logiciel libre actuellement?
Oui, je suis élue depuis 2014 en charge, entre autres, du numérique. Et donc, en 2014, lorsque je suis arrivée, j'ai tenu à mettre en place une politique d'une migration vers le logiciel libre. Donc avec priorité au logiciel libre, format ouvert, etc. Et adhésion justement à l'association Adulacte qui accompagne les collectivités. Donc en 2014. Et donc là, j'ai eu un DSI qui a décliné cette politique en projet. Et donc on a mené un certain nombre de projets jusqu'à la migration vers la bureautique libre en fin de mandat 2020. 2020, donc j'ai été réélue. Donc je suis aussi toujours en charge du numérique avec d'autres casquettes. Et là, donc je suis partie sur une politique plutôt du numérique responsable et inclusif, justement, puisqu'on a besoin d'accompagner les personnes en difficulté avec l'informatique. Et donc le logiciel libre continue à nous aider beaucoup là-dessus. Pour la sobriété, par exemple, la sobriété numérique, justement, en allongeant la durée de vie des terminaux. et puis en mettant en place des logiciels simples pour accompagner les utilisateurs. Voilà.
Merci. Je vois que depuis 10 ans, en 2014, c'est admirable.
Voilà. Merci. Voilà. Oui, c'est pas toujours facile, non, parce que les équipes changent, oui, les agents changent. Donc, il faut tout le temps former, accompagner, oui, expliquer. Voilà. Et bien montrer les enjeux, oui, les enjeux, oui, politiques, les enjeux techniques.
Mais même si les équipes changent, vous avez évangélisé ceux qui partent, peut-être.
J'espère que, oui, ça perdurera. Voilà, voilà.
Et donc, je ne vous ai pas demandé qui vous étiez dans la ville, une élue.
Alors, ouais, une élue au niveau étiquette.
Non. Quel est votre poste, votre rôle?
Je suis adjointe en charge de l'agriculture, voilà, l'économie locale, okay, le tourisme. Adjointe, et donc, okay, voilà, c'est ça, okay, le numérique.
D'accord.
Voilà.
Merci.
Et donc, je suis une ancienne DSI, donc j'ai été DSU à l'université, okay, dans une grande collectivité.
D'accord.
Ok. Voilà.
Vous savez de quoi vous parlez.
Oui. Et donc, on va peut-être venir sur le sujet,
oui,
des femmes.
Voilà.
Donc, moi, j'ai fait des études d'informatique qui remontent à 1975, 76, d'ingénieur. Ouais. Et donc, j'ai toujours travaillé en informatique. Je suis un peu un dinosaure de l'informatique, comme je disais à mes étudiants. Et alors, au fur et à mesure, donc ça fait presque 45 ans, mais je trouve que les femmes sont toujours aussi peu représentées dans le milieu informatique en général. Et je pensais que dans le logiciel libre, parce qu'il y avait vraiment des enjeux éthiques, je l'ai en trouvé un peu plus. Mais non, ça reste quand même un milieu un peu de geek, développeurs, qui parlent beaucoup développement entre eux. Donc, chaque fois, il faut les remettre un peu sur le bon chemin. Mais voilà, je trouve... Et ici, ça m'a frappé là, en arrivant ce matin. Les femmes, on les compte sur le doigt de la main.
Il y a encore des efforts à faire.
Oui. Mais dans les deux sens, je pensais à la fois convaincre les filles que c'est intéressant, oui, que c'est pas forcément que de la technique et que du développement, mais qu'on peut faire des choses très intéressantes avec justement les logiciels libres et puis avec l'informatique. Et puis après aussi, peut-être que les hommes cèdent un peu la place aussi. Bon, voilà. Donc c'est, en termes de gouvernance, c'est vraiment un équilibre à trouver.
En tout cas, votre parcours est très inspirant.
Merci.
Merci.
Merci bien.
Merci bien pour cette interview.
Merci.
Merci. Je suis maintenant avec Clément Houdot de l'entreprise Vortex, spécialisée dans l'infrastructure. Bonjour Clément.
Bonjour, merci de m'accueillir. Donc effectivement, Vortex, société d'expertise en open source, principalement infrastructure, tout ce côté serveur. Voilà, virtualisation, messagerie, base de données, identité.
Clément, pourquoi est-il important que Vortex adhère à l'April ?
Alors, on est adhérent depuis le début de Vortex, et puis les responsables de Vortex étaient à l'April également, et j'y suis à titre personnel également membre de l'April. Pour nous, c'est très important que l'April continue à faire le travail de surveillance politique et aide à infuser en fait le logiciel libre dans la société, que ce soit pour les particuliers, les associations et également les entreprises.
Et donc, quel est le rôle alors de Vortex dans l'écosystème du libre ?
Alors, on est une société de services, c'est-à-dire qu'on va proposer des services, du support, de la formation ou même de l'hébergement à nos clients. Mais on a vraiment à cœur d'être au sein de l'écosystème du logiciel libre, puisqu'on est nous-mêmes des contributeurs d'un certain nombre de composants. Les gens qui sont chez nous ne vont pas seulement répondre aux besoins de nos clients, mais on va aussi essayer de faire que ces besoins-là et les financements que nos clients apportent à Vortex viennent bénéficier directement au logiciel. Voilà, donc on est notamment des principaux contributeurs de Lemon LDAP NG, LSC, LDAP Toolbox, et voilà, un certain nombre de composants complètement open source.
Merci Clément. Alors parlons du Cyber Resilience Act.
Oui.
Alors vous m'avez décrit quel en était l'impact, qu'est-ce que c'était ? Pouvez-vous en parler aux auditeurs ?
Oui, c'est quelque chose effectivement qui est arrivé il y a quelques mois sur nos écrans. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions. Et puis nous, via le CNLL, on est aussi membre du CNLL, on a essayé d'influer un peu la politique européenne pour que le CRA, donc le Cyber Resilience Act, n'ait pas trop d'impact sur l'écosystème de l'open source. La difficulté de cette mesure du CRA est que effectivement, il peut y avoir un impact pour les petites sociétés comme nous qui allons proposer du logiciel libre à nos clients, d'avoir trop de lourdeur administrative et trop de d'engagement en fait à tenir pour continuer à faire notre métier, sachant que le logiciel libre est de nature sans garantie. Donc c'est là où on est très vigilant. Tout n'est pas encore réglé et écrit. On est en train de mettre en place ce qu'il va falloir faire pour qu'on continue à être dans la légalité et continuer à pouvoir travailler dans le logiciel libre en respectant ces normes.
Merci pour ces éclairages. Alors Clément Oudot, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Par ailleurs, je sais que vous êtes chanteur dans le groupe Capitaine.
Capitaine, voilà, Captain. Tout à fait. C'est mon nom de scène.
Voilà, donc nous diffusons sur Libre à vous.
Je vous en remercie. Musiques. Plusieurs musiques, tout à fait.
Pour continuer à parler de la musique et du
oui.
libre, pourquoi avez-vous choisi de diffuser vos musiques sous une licence libre de droit ?
C'est un engagement personnel, donc c'est effectivement moi depuis 20 ans je travaille dans le logiciel libre et pas uniquement pour des aspects techniques mais vraiment aussi pour des aspects humanistes et de partage et comme en loisir je fais de la musique naturellement je me suis dit que il était bien aussi de partager avec le plus grand nombre, donc toutes les musiques sont sous licence art libre Creative Commons j'ai le plaisir de faire des concerts de temps en temps dans un certain nombre de manifestations du libre. J'étais au JDLL il y a quelques jours pour faire un concert et j'espère pouvoir intervenir dans d'autres conférences très bientôt.
Merci beaucoup Clément et bon salon à vous, bonne rencontre à vous et nous allons écouter votre musique.
Merci.
Nous allons donc faire une pause musicale. Nous allons écouter le Musée d'Air Contemporain par Captain, que vous avez entendu dans les interviews. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire. Au musée d'air contemporain, la lutte des classes pour les professeurs qui menacent les gamins qui ne contemplent rien. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air, la période bleue, la période noire. Comme si la planète était une grande palette, avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans les petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça chouette. Pareil qu'avant, il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Fin de la visite, on se dirige vers la boutique du musée d'air contemporain. Bouteille d'eau claire, sachet de terre et bonbonne d'air. fruits et légumes en parfum. Voyez dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça beau.
Nous venons d'écouter Le Musée d'Air Contemporain par Captain. Ce titre est disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC by SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous sommes toujours au RPLL, petit nom pour les rencontres professionnelles du logiciel libre, juste après la pause déjeuner. Claudine Chassagne, élue à la ville de Saint-Martin-du-Riage en Isère et qui a participé à la table ronde Logiciel libre et collectivité locale, nous a offert et dédicacé la nouvelle édition de son livre. Migrer son système d'information vers les logiciels libres, un défi politique et technique pour les collectivités locales. Écoutons maintenant les interviews de l'après-midi. Je suis toujours aux rencontres professionnelles du logiciel libre. Nous avons passé la pause déjeuner qui était très sympathique, où nous avons beaucoup discuté les uns et les autres, très intéressant. Et maintenant, je suis avec Franck Brunet de l'entreprise DBM Technologies, qui est spécialisée dans l'infogérance. Bonjour Franck, vous êtes adhérent à l'April alors depuis plus de 15 ans. Pourquoi c'est important pour vous d'adhérer à l'April ?
Alors, effectivement, sur la durée, ça fait très longtemps puisque j'ai plus le souvenir et j'ai fait partie, donc en tant qu'exposant, des premières Linux Expo à l'époque au CNIT, et c'est à ce moment-là que j'avais adhéré à l'April. Pourquoi l'April ? Parce que dans notre vie tous les jours de production, on est très content d'avoir, avec l'April et d'autres, obtenu certaines libertés et certaines ouvertures du logiciel. Mais en fait, c'est une liberté qui se défend tout le temps. Et il faut effectivement, de la même façon que les gens du propriétaire dépensent des millions à faire du lobbying pour fermer les codes et fermer les accès et mettre des tickets, ce qu'on appelle les tickets d'entrée, par exemple, sur la comptabilité avec des millions d'euros pour empêcher des acteurs novateurs et fermer des marchés, donc empêcher les acteurs de se lancer dedans, et bien il est hyper important qu'on ait des gens qui défendent ces libertés à la fois pour la société civile d'une part, et aussi, indirectement aussi, ils le font pour les professionnels que nous sommes. Voilà, donc ça c'est pour moi une façon de dire je peux pas moi-même m'investir plus de temps, j'ai que 24 heures par jour, donc je peux pas effectivement moi aller militer, faire du lobbying et aller voir les politiques et leur expliquer l'intérêt pour l'humanité et les Français de toute manière d'avoir du libre le plus possible autour de nous, que ce soit en informatique d'ailleurs ou en médicaments ou d'autres, voilà, d'expliquer effectivement pourquoi il n'y a pas de cohérence à essayer de faire voter des brevets logiciels qui sont une hérésie absolue. Voilà. Je prends toujours l'exemple du tire-bouchon. Breveter un logiciel revient à breveter l'idée du tire-bouchon. Et ça, c'est pas entendable pour l'humanité. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de déboucher une bouteille et vous pouvez imaginer tout un tas de processus différents et inventer des tire-bouchons révolutionnaires, et à la limite vous avez le droit de breveter pendant un temps ce tire-bouchon parce que ça vous a coûté beaucoup d'énergie, ingénierie, et donc la société vous protège le temps de rentabiliser cet investissement. Par contre, l'idée même de déboucher un tire-bouchon, une bouteille, ça appartient à l'humanité. Et ben l'informatique c'est exactement pareil en fait. L'informatique c'est juste des codes, des boucles, for i égale 1 to n, while, des choses comme ça, et c'est ces petites briques élémentaires, on peut considérer ça comme un langage, comme le français. Voilà. Et donc breveter du logiciel revient à breveter l'idée du tire-bouchon ou la langue française. Donc ça, il faut le combattre de façon absolue. Parce qu'on peut faire des compromis sur plein de choses, et vous verrez plus tard quand vous allez me poser d'autres questions que je suis obligé dans la vie de faire des compromis comme tout le monde. Rien ni tout blanc ni tout noir, mais il y a des principes même comme la liberté, l'égalité des hommes-femmes, etc. C'est des choses qui ne sont pas acquises, il faut les défendre. Et comme moi, j'ai pas le temps de le faire, je contribue à travers mon adhésion à l'April à donner un peu d'argent qui permet à l'April d'aller défendre pour nous tout ça. Voilà.
Merci beaucoup, Franck, pour votre vision extraordinaire de la contribution apportée par l'April.
Ça nous fait chaud au cœur. Comment voyez-vous l'évolution du logiciel libre dans les 5 à 10 prochaines années ?
Alors, c'est très compliqué parce qu'on peut difficilement prédire l'avenir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se souvenir du passé pour aller dans l'avenir. Et dans le passé, c'est malheureux à dire, mais c'est pas souvent et pas tout le temps les meilleures technologies qui survivent. Hein, on l'a vu avec le magnétoscope, les fameux formats Betacam, etc. Et ben là, c'est pareil. On a les meilleurs codes parce qu'ils sont ouverts, qu'ils sont travaillés, qu'ils sont sécurisés par des millions de personnes de façon indépendante pour éviter des backdoors, des intrusions de gouvernement extérieur. Mais à côté de ça, on a aussi des gens qui gagnent énormément d'argent à fermer le code. Et donc ces gens-là, ils peuvent faire du lobbying pour justement essayer de discréditer le logiciel libre. Donc c'est extrêmement compliqué. D'autant plus que les gens, donc moi, j'aimerais et je vais contribuer dès que je pourrai plus sur du code, parce que j'aurai un peu plus de temps. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ce qui est certain, c'est que j'admire tous les gens qui ont réussi. Ça peut même être des gros. Hein. Même des fois, je crache pas que sur les gros. Google, par exemple, c'est un très beau contributeur au noyau Linux. Et ça, je ne le cache pas. Et donc, moi, je rêverais d'avoir assez, effectivement, de dégager assez de bénéfices dans notre entreprise pour pouvoir encore plus contribuer avec du code. Aujourd'hui, on le fait, notre contribution, elle est beaucoup plus sur, on va dire, de la pédagogie, sur la transformation de gens, l'accompagnement et la défense, dès que je le peux, des idées libres et l'explication de pourquoi c'est mieux un code ouvert intrinsèquement qu'un code fermé, etc. Donc, pour revenir à la question qui est de savoir l'avenir du logiciel libre, effectivement, c'est comme la démocratie, un combat tous les jours qu'on doit défendre, à la fois politique et économique, parce qu'effectivement, il faut que nos entreprises, malgré tout, pour pouvoir payer des salaires à la fin du mois, il faut faire rentrer des commandes et honorer des commandes. Donc, les entreprises qui sont dans le monde propriétaire, en fait, ils ont tellement d'argent qu'ils ont des capitaux pour faire du lobbying, de la publicité. Par exemple, moi qui ai des expériences antérieures en Windows, en administration système et en Linux, et qui continue un peu à avoir les deux mondes, enfin, il y a pratiquement un rapport 1 à 10 d'efficacité entre un admin 6 Linux et un admin 6 Windows. Mais Microsoft va essayer de faire une sorte de mayonnaise en faisant croire aux gens que le TCO, donc le Total Cost of Ownership d'une solution Microsoft est meilleur marché, ce qui est totalement faux en fait. Voilà. Néanmoins, eh ben, comme je l'ai dit, ça, même si technologiquement parlant, c'est une évidence pour moi que c'est une solution d'avenir pour la planète et en tout cas aussi pour les Français. Elle va se défendre tous les jours et donc je peux pas prédire aujourd'hui qu'on va réussir. Mais j'y travaille comme tous les gens qui sont ici et bon, ça fait du chemin. Voilà, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de route.
Je vous remercie beaucoup, monsieur Franck Brunet. Je rappelle le nom de votre entreprise qui est DBM Technologies. Et j'ai trouvé votre vision vraiment inspirante, je dirais, intéressante, et vous avez une belle vision stratégique. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Je suis allée maintenant à la rencontre de Tom Grand-Georges de Xivo. Bonjour Tom.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que Xivo ?
Oui, alors déjà je remercie de m'interviewer. Alors Xivo, non, c'est un logiciel, c'est-à-dire que c'est un logiciel de centre d'appel, de téléphonie, quoi, TOIP. Et l'entreprise qui l'a dite, c'est AvonCall. Donc on est la première solution de TOIP open source française, souveraine. Et notre particularité, c'est qu'on développe notre solution et on l'intègre directement chez nos clients.
Alors TOIP, c'est je crois ce que ça veut dire, c'est de faire de la téléphonie sur du réseau informatique. C'est pas de la téléphonie avec des commutateurs télécom type France Télécom comme autrefois.
Exactement.
C'est vraiment la téléphonie sur les
sur IP.
Voilà, sur les tuyaux modernes.
Exactement.
Voilà,
exactement.
Internet quoi.
Voilà. Et ouais. Et nous maintenant, on a développé Xivo pour avoir une solution aussi de softophonie. Alors je sais pas si ça vous dit quelque
D'accord. Donc
chose.
C'est le téléphone sur l'ordinateur,
sur
au lieu qu'on ait un téléphone physique.
Plastique, nous on appelle ça le téléphone plastique.
Téléphone
on a
plastique.
Un téléphone
D'accord.
relié au casque et on peut répondre directement sur l'ordinateur.
D'accord. Donc c'est l'entreprise Xivo qui a créé ce logiciel.
Qui a créé
softphone.
De softphone, oui.
Et c'est un softphone libre ?
Oui, open source.
Okay.
Et bah, évidemment, open source. Sinon okay. on ne serait pas là.
Ok, donc alors quel type de client ? Est-ce que ce sont des petits, des grands ? Quels sont les types de clients, les domaines qui utilisent donc vos solutions de logiciels libres, de téléphonie sur l'Internet, sur l'informatique ?
Sur IP. Alors nous, globalement, en fait, on va chercher tous les clients, que ce soit des PME, des ETI, des grands comptes, etc. Okay. Mais nous, on se spécialise Xivo AvonCall, c'est-à-dire que moi, on va aller chercher des postes allant au minimum à 150 utilisateurs. C'est-à-dire qu'on spécialise vers des ETI, des grands comptes. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est là où on est le plus pertinent, c'est là où on est le plus fort. Parce que comme on fait du développement spécifique, c'est trop compliqué d'aller chercher des petits comptes. Donc nous, on préfère aller chercher des gros comptes. Mais évidemment, on ne laisse pas de côté les petits comptes, les PME, etc. Nous, on a des partenaires avec qui on travaille depuis longtemps qui vont intégrer Xivo vers des PME. Mais donc on s'occupe des grands comptes et surtout on est très pertinent sur le secteur du public, donc les universités, les mairies, les communautés, les conseils départementaux, etc. Le public vraiment c'est 80% de nos clients à peu près.
D'accord. Et du coup, ça fait longtemps que le public se tourne vers des solutions de téléphonie de type libre Xivo ?
Alors, c'est-à-dire, je pense que... Alors, moi, je suis un peu jeune, on voit pas, mais je suis un peu jeune. Alors, je pense qu'au début, les collectivités, comme tout le monde, sont allées voir des solutions en SaaS qui étaient fermées, comme Microsoft, etc., parce que ça fonctionne. Mais maintenant, on se rend compte aussi, pour des questions de coûts et de souveraineté, surtout,
voilà.
Que c'est plus compliqué d'aller faire confiance à des entreprises, Microsoft, pour ne pas les citer. Et maintenant, il y a un petit retour en arrière où les collectivités, et même un petit peu, tout doucement, mais ça commence, le secteur privé commence à se tourner vers des solutions open source pour équiper leurs collaborateurs de téléphonie, mais pas que, parce que là, dans le salon, il y a plein de solutions et c'est hyper intéressant.
Oui, justement, dans le salon, là, je me rends compte que c'est grandissant dans le secteur public, les collectivités locales, parce qu'ils se rendent compte de toutes ces problématiques de souveraineté des données, de coûts,
et
tout ce qu'apporte le logiciel, le monde du libre.
Exactement. Oui. Et nous, notre force chez Xivo, c'est que comme on est open source, on a les API first. Nous, on s'intègre directement à des architectures beaucoup plus complexes. On fait du on-premise. Et ça, les collectivités, elles aiment beaucoup. C'est-à-dire que leur solution, elle est dans leur infra, dédiée. Dans les mairies ou dans les universités. Oui. Et ça plaît beaucoup. Au lieu que leurs données partent dans le Michigan ou avec des solutions SaaS, nous, c'est vraiment, ça reste, ils peuvent mettre la main dedans, surtout.
Oui, ce que vous voulez dire dans on-premise, c'est que les serveurs sont chez eux.
Chez eux.
C'est pas dans le cloud où on sait pas où sont les données.
Exactement.
Vous installez chez le client, le serveur, c'est ça ce que ça veut dire quand vous dites on-premise. Voilà.
C'est ça. Et nous, nos clients, c'est vraiment des personnes qui aiment mettre les mains dedans. Voilà.
Ok, merci beaucoup Tom Grand-Georges de la société Xivo de cette
merci
petite interview.
Merci à vous, j'espère que ça vous a plu.
Oui. Alors voilà, il est 16h et je suis toujours aux rencontres professionnelles du logiciel libre et j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. Et maintenant, c'est l'heure où j'ai l'immense chance d'interviewer pour l'émission Libre à vous Emmeline Baume, vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, qui accueille cet événement des rencontres. Bonjour Madame Baume et
bonjour.
Merci beaucoup. Première question, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi d'adhérer à l'April parce que la métropole du Grand Lyon adhère à l'April ?
Alors, pourquoi ? Parce que ça faisait sens en fait quand on est arrivé en situation de responsabilité en juillet 2020. On avait dans notre sac à dos ce parti pris autour des logiciels libres, donc pour mieux et plus travailler les enjeux de souveraineté, mais aussi mieux et plus travailler la mise en commun d'outils, en particulier parce qu'on est une métropole, donc on est la strate entre guillemets, c'est pas très joli le mot strate, mais au-dessus des communes, et que contrairement à ce que les lois et la réglementation, entre autres la loi MAPTAM et la loi NOTRe définissent, on souhaite vraiment que la métropole elle agisse à l'échelle territoriale avec les communes pour répondre aux besoins des habitantes et habitants, avec entre autres l'outil numérique. Et il se trouve qu'on a une capacité d'agir avec des investissements, mais aussi avec de l'ingénierie de projet, avec des hommes et des femmes qui travaillent dans nos services, en particulier le service numérique, et qui sont en capacité d'accompagner les communes pour qu'elles puissent déployer des solutions qui auraient été co-construites. Et quoi de mieux que de le faire avec les acteurs du libre ? Donc ça faisait complètement sens d'adhérer à l'April. Et puis après, il y a un sujet de portée du plaidoyer aussi, il me semble.
Oui, c'est bien ce que l'April le souhaite.
Oui.
Pourquoi est-il important que la métropole soutienne ces rencontres professionnelles aujourd'hui ?
Alors, c'est justement pour travailler à un autre angle. Là, dans la première question, c'était plutôt en quoi la solution du libre, ça permet à des acteurs publics d'être plus efficaces ensemble, voilà, tout simplement. Alors que là, le sujet, c'est de prendre conscience de la valeur économique des acteurs du libre, donc les hommes et les femmes qui ont créé, qui portent des organisations et des entreprises et qui agissent au sein de ces entreprises et leur permettre de partager du retour d'expérience, de se rencontrer, éventuellement d'envisager d'agir économiquement ensemble, donc des rencontres business. Pourquoi pas de répondre à des appels d'offres publics ou privés, enfin des acheteurs qui sont tenus par le code de la commande publique, etc., etc. C'est important d'avoir les deux piliers, voire même d'autres piliers, parce qu'il y a le sujet de l'accompagnement des usages dont on parlera sans doute, mais vraiment de dire la métropole c'est un donneur d'ordre, la métropole a un parti pris pour travailler le libre, mais elle ne le fera qu'avec des entreprises qui sont partie prenante en fait de ces enjeux-là, d'où les rencontres entre professionnels. Et puis après, il y a une raison très concrète, on est juste à côté d'un hub de transport et je pense que c'est un gage de réussite que de mettre à disposition ce lieu public juste à côté de la gare, tout simplement. On est sûr qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui seront là et c'est ce que je souhaitais.
Oui, effectivement. Alors une question sur justement les usages. En 2021, vous aviez voté une délibération pour la transformation de l'environnement numérique de travail des agents. Alors je cite cette description de ce travail. Donc cette délibération propose d'engager la collectivité dans une transformation de l'environnement numérique de travail des agents et de développer dans la durée la part de logiciels libres afin de mieux répondre aux attentes extrêmement fortes sur ces outils du quotidien, de maîtriser la dépense publique sur la durée et de préserver la souveraineté numérique de la collectivité. J'entends beaucoup ce mot. Concept souveraineté numérique. Et dépenses publiques, c'est vraiment les deux choses, surtout aussi que j'ai entendu à la conférence tout à l'heure.
Oui. Comme beaucoup de collectivités, on est forcément captif d'une solution, la solution Microsoft. Et avoir en tête, pour celles et ceux qui nous écoutent, que la métropole de Lyon, c'est une organisation de entre 9600 et 10 000 agents. Ce que ça veut dire, c'est énormément de besoins extrêmement différents. C'est pas du tout la même chose d'être sur le terrain et de devoir se géolocaliser et de rendre efficace la tournée de collecte des ordures ménagères que de porter un SI achat pour avoir les bonnes données pour évaluer notre politique publique d'achat responsable ou de porter un SI ressources humaines et d'éditer à temps les feuilles de paye, mais aussi d'être en capacité d'accompagner avec finesse et justesse les agents du service public dans leur parcours de formation, pour donner trois exemples extrêmement différents. Donc quand on est arrivé en situation de responsabilité, l'équipe numérique nous a montré au président à moi et à la DGS l'augmentation exponentielle des besoins aussi bien en matériel qu'en solutions logicielles et pro-logicielles légitimes des agents du service public pour garantir l'efficacité de nos politiques publiques. Cette dépense-là, elle ne fait que croître. S'y ajoute le sujet d'être dépendant d'une solution. Et donc, avec plein de bon sens, assez logiquement, on a dit, voilà, nous, on souhaite en sortir. On doit garantir un certain niveau de service public. Ce niveau de service public, il est garanti par le fait que des hommes et des femmes travaillent au quotidien, entre autres avec un outil numérique. Or, nous avions en tête qu'une partie de ces hommes et de ces femmes-là, après avoir fait des petites études avec des agents volontaires, que certains agents avait un certain frein à utiliser des solutions libres, par habitude en fait de d'autres solutions, tout simplement. Et ce qu'on a découvert, qu'on savait déjà, mais c'était important de mener l'exercice, c'est de dire si on veut faire bouger l'environnement numérique de travail des agents, alors il faut le faire progressivement, c'est ce qu'on a mis dans la délibération, en les accompagnant et en commençant autant que possible par des volontaires et en commençant sur des objets pas trop compliqués. Donc on a fait le choix d'y aller sur les outils collaboratifs et la messagerie et on le fait vraiment pas à pas. On a aussi fait le choix de le faire ensemble avec deux autres organisations, donc avec la ville de Lyon, enfin de travailler ce sujet en commun, par principe justement, donc avec la ville de Lyon et avec le CITIF, qui est un syndicat qui porte des actions autour de l'informatique, entre autres, et qui regroupe une diversité de communes sur le territoire de la métropole, mais aussi dans la Loire. Et je pense que c'est important que les personnes qui nous écoutent aient cette information, c'est-à-dire que dans notre parti pris politique, de soutenir le développement de solutions en libre dans notre environnement numérique de travail, on a mis comme en méthode le fait d'agir à plusieurs et donc de créer en commun des solutions ou d'aller chercher en commun des solutions plutôt que d'acheter ou de trouver chacun dans son coin, ville de Lyon, métropole de Lyon, CITIV, des solutions, de les tester, de se rendre compte de ci, de ça. Pour être très transparente, on a fait le choix d'allonger encore le calendrier pour ce passage au libre pas à pas. Voilà, c'est pas forcément évident politiquement à vivre, mais j'ai bien compris qu'il y a un enjeu d'accompagnement aux usages des agents et agentes du service public, et c'est pour elles et eux qu'on le fait, puisque c'est elles et eux qui garantissent l'efficacité de nos politiques publiques.
Merci beaucoup, Émilie Baum. Je suis maintenant avec Simon Clavier, président de l'association TOSIT, qui va bientôt faire une conférence aux rencontres professionnelles du logiciel libre et qui a bien voulu me parler 5 minutes avant d'enchaîner sur sa conférence.
Bonjour.
Bonjour, merci Simon. Pouvez-vous présenter TOSIT aux auditeurs de Libre à vous ?
Oui, alors l'association TOSIT, c'est une association qui regroupe des grandes organisations. À l'origine, on était 6, Carrefour, EDF, Enedis, Orange, Pôle emploi et SNCF. Donc moi, je suis employé SNCF, hein, je m'occupe de l'open source à la SNCF. Et cette organisation a vu le jour en 2017 parce qu'on avait besoin de mieux coordonner nos actions, de mieux réfléchir ensemble en fait à comment mieux utiliser l'open source aussi et aussi comment mieux contribuer à l'open source en tant que grand groupe. Il y avait déjà des cercles qui existent, hein. Il y a des choses comme le CIGREF où il y a déjà des gens qui discutent sur les sujets d'informatique, mais c'était pas suffisamment détaillé ou rentrait pas suffisamment dans le creux du sujet, quoi, sur mettre en place une stratégie open source, comment aller chercher plus d'open source, comment rendre aussi des choses qu'on aurait pu faire en open source, la contribution. Donc depuis 2017, on a beaucoup grossi puisque maintenant on est 19. Donc vous trouverez le site sur tosit.fr et donc ce sera justement l'objet de ma conférence, à expliquer qu'est-ce que cette association, pour comment on est né et qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de progresser tous en fait. Hein. C'est-à-dire, dedans il y a des entreprises comme la Maïf par exemple qui fait beaucoup d'open source, qui crée des open source. Il y a par exemple RTE qui a monté une fondation qui s'appelle LF Energy pour faire de l'open source dans sa verticale industrielle de l'électricité, ce qui nous a d'ailleurs donné l'exemple pour nous de faire la même chose. La SNCF s'est engagée maintenant dans une fondation qui s'appelle Open Rail Association, où il y a la Deutsche Bahn, les chemins de fer suisses et l'Union internationale des chemins de fer, et là aussi on essaye de faire de l'open source également sur le domaine métier. Donc je m'écarte un peu de TOSIT, mais c'est l'idée. Oui. C'est en fait c'est vraiment un endroit où on discute, où on échange nos stratégies, ce qui marche, ce qui marche pas, et on essaye d'avancer ensemble. Et c'est un vrai on essaie vraiment de faire de la co-construction, parce qu'on a eu par exemple, je vais donner deux exemples que je vais donner dans la conférence tout à l'heure. Il y a eu un outil de chatbot qui s'appelle TOC, qui veut dire The Open Conversation Kit, qui a été créé par la SNCF il y a un petit moment, plusieurs années maintenant, parce qu'elle voulait pas se faire des intermédiaires, etc. Et grâce à TOSIT, on a pu comme ça le faire connaître et le faire utiliser et expliquer à ces entreprises comment ça marche, et ça devient maintenant un vrai commun réutilisé par d'autres entreprises. Et un truc intéressant, c'est que c'est un des membres de TOSIT, Crédit Mutuel Arkéa, maintenant, qui a été le plus gros contributeur sur TOC en 2023. Ça, c'est un des premiers exemples. Le deuxième exemple, c'est une distribution Big Data qui s'appelait Hortonworks et qui était open source, mais qui s'est fait, l'entreprise s'est fait racheter par son concurrent et ils ont fermé le code source. Ce code a été repris par des membres de Togit, en l'occurrence EDF et le ministère des Finances, par la DGFiP. Hein. Mm-hmm. Et on a donc forqué le produit qui s'appelle maintenant Trunk Data Platform pour le perpétuer dans sa version, on appelle ça LTS, Long Term Support, mm-hmm. pour une version qui dure longtemps. Et c'est déjà repris par d'autres membres de Togit qui l'ont mis en production. Donc on voit bien que cette idée-là, c'est qu'on fait notre part aussi en créant. Nous sommes les utilisateurs finaux de l'open source en fait. Hein, et en fait, on a notre part à jouer. Et souvent, je fais le parallèle avec les AMAP en fait. Mmh. L'idée, c'est d'aller chercher, bah voilà, nos poireaux chez le producteur poireaux quoi. Bah là, allons chercher le logiciel chez ceux qui font le logiciel et faisons notre part. Il faut qu'on sorte on a l'habitude nous de faire ce qu'on appelle make or buy. Soit on fait le logiciel, soit on achète le logiciel. Là, c'est une troisième voie où on fait le logiciel ensemble, où justement ça apporte des bénéfices par rapport aux deux solutions qui ont elles-mêmes leurs défauts. Si j'achète le logiciel, j'ai un verrouillage fournisseur, j'ai des prix que je ne maîtrise pas, une roadmap que je ne maîtrise pas. Si je le fais moi-même, il faut que je supporte ça sur le long terme, que j'ai des personnes qui continuent à le développer. Et donc, les deux posent problème. Faire ensemble des briques communes qu'on maintient à plusieurs dans le temps, c'est un pari gagnant.
Bah, merci Monsieur Clavier pour cette description inspirante parce que j'ai pas beaucoup entendu l'histoire des grands groupes qui contribuent au logiciel libre et à l'open source et au partage. Oui. Et donc le fait que vous soyez regroupés et donc, du coup, vous allez parler de ça avec votre conférence. Et voilà, je trouve que c'est super.
Ben, merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Je suis avec Charline Lombardo de Propsys. Merci, Charline, d'accepter cette interview.
Merci.
Donc, pouvez-vous nous expliquer que fait Propsys ?
Alors, Propsys, c'est une société de services spécialisée en logiciels libres. Et on a deux grands domaines d'activité aujourd'hui, l'administration système et réseau, où on peut intervenir sur tout type de projet, de l'audit du conseil, de la sécurité, de la formation, de l'hébergement, de l'infogérance, du transfert de compétences. Donc on vient en renfort d'équipes existantes ou vraiment en totalité sur le projet pour aider des équipes.
Et du coup, c'est quel type d'entreprise ?
Alors, on travaille avec tout type d'entreprise aujourd'hui, des administrations de l'État, des TPE, des PME, mais aussi des associations.
Et donc, vous avez aussi des applications métiers ?
Exactement. On a une activité de développement donc sur de l'application métier spécialisée. On vient répondre à un cahier des charges et on propose une application sur mesure pour nos clients.
Comment vous arrivez à faire intégrer les logiciels libres, les environnements libres auprès de vos clients? Qu'est-ce qui fait qu'ils les poussent à travailler avec vous? Quels sont vos arguments?
Alors, nos clients viennent nous chercher justement parce qu'on leur propose des solutions libres. Ils veulent pouvoir ne pas forcément être liés à un prestataire, avoir bien évidemment leur code et tout ce qui s'ensuit. Donc ça leur permet déjà d'avoir une réduction des coûts, même s'il y a une enveloppe budgétaire à mettre en place sur la mise en place d'un projet. Derrière, il n'y a pas de frais de licence et ils peuvent être complètement autonomes. Donc réinternaliser les compétences s'il y a le besoin ou faire appel à d'autres prestataires de services pour être le plus libre possible. Puis en complément de ces applications métiers, on est venu mixer un petit peu nos compétences pour être éditeur de nos propres solutions. Donc on a développé une solution libre qui s'appelle AgenJ, un anti-spam. Et on est en cours de développement d'une solution qui s'appelle Billetto, un outil de ticketing.
Donc ces outils sont libres, peuvent être utilisés par tout le monde.
Exactement. Et on a volonté à ce que tout le monde puisse les utiliser parce que les utilisateurs sont riches d'expérience et peuvent nous faire des retours pour qu'on puisse améliorer nos outils aussi au quotidien.
Ben, merci beaucoup Charline et bonne fin de salon.
Merci.
Je suis avec Damien Accorsi de l'entreprise Algou. Bonjour Damien.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire que fait Algou ?
Donc Algou est un éditeur de logiciels libres et de services basés principalement sur des logiciels libres. On a un service de collaboration un logiciel de collaboration qui s'appelle Tracim, qui est un logiciel qui est destiné à la collaboration d'équipes. Okay. Sur ce logiciel, on est éditeur. Et on a un service d'email qu'on a lancé en 2023, qui est là, on est plutôt éditeur de service et on contribue à une brique open source sur laquelle on s'appuie pour le service.
Ok. Et alors, quel type d'entreprise, organisme utilise vos solutions, ce logiciel ?
Alors, on a trois typologies principales de clients. On a des associations, des collectivités et des TPE-PME.
Alors, j'ai cru comprendre qu'entre les associations et les collectivités d'un côté et les entreprises de l'autre, il y avait des enjeux différents entre la souveraineté et autre chose pour les entreprises.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, les associations et les collectivités sont très demandeuses de souveraineté des données et de réversibilité des services qu'on propose. C'est-à-dire que les logiciels libres vont leur permettre, si à un moment donné ils sont insatisfaits ou que nos tarifs sont trop élevés, ça va leur permettre de passer soit chez un autre prestataire, soit d'héberger eux-mêmes leurs solutions. Et donc c'est une garantie financière pour eux qui ne seront pas verrouillés comme clients chez Algo. Au niveau des entreprises du milieu privé, c'est un peu différent. On va dire que les choix sont plutôt calculés et pragmatiques, où on va chercher un périmètre fonctionnel avec un coût associé. Et les clients vont chercher la solution avec le meilleur rapport qualité-prix.
Vous nous avez parlé de votre nouvelle offre email qui est sortie en novembre, je pense.
Oui, c'est
ça. Alors, est-elle en croissance ?
Oui, donc du coup, la solution email Galae est sortie effectivement en novembre. On avait fait une campagne de précommande avant de la lancer à l'été 2023 qui nous a permis de valider qu'il y avait une demande pour ce service. Le service a été lancé en novembre, suite à quoi on a eu quelques mois à essuyer des difficultés techniques. Ça s'est résorbé courant mars. Depuis le mois d'avril, la plateforme fonctionne très bien et maintenant on est dans une phase où on cherche de nouveaux clients, sachant que on a un certain nombre de clients qui ont commandé avec des offres plutôt petites et qui passent progressivement sur des offres plus importantes, signe que le service est satisfaisant.
Ah, bravo et merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup.
Les rencontres professionnelles du logiciel libre se terminent. Et j'ai la chance d'être assise à côté de Benjamin Sontag pour une petite interview. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté. Pourquoi c'est important pour vous de venir aux rencontres professionnelles du libre ? Pourquoi c'est important pour vous de faire du libre ?
Alors c'est deux questions différentes. Pourquoi c'est important de faire du libre ? Parce que c'est pour moi la seule façon de faire de l'informatique qui puisse vraiment rendre service à toutes et à tous. Parce que le faire en propriétaire, c'est forcément faire une closure, refermer les capacités d'innovation et de... Je veux dire, Internet n'aurait pas pu avoir lieu sans le logiciel libre. Clairement, tout Internet, okay. le réseau lui-même. Ouais. Quoi. Donc toutes les innovations, toutes les améliorations qu'on peut apporter à notre quotidien, c'est mieux si elles sont accessibles à toutes et à tous. Et pourquoi c'est important d'aller au RPLL en particulier ? Parce qu'en fait, on parle souvent du libre dans les milieux associatifs, dans les ONG, à différents endroits, mais c'est important aussi pour les entreprises. Et qu'on soit simple entreprise ayant besoin d'usage, ce qu'on appelle l'IT, c'est-à-dire bureautique, email, communication de base. Il y a plein de logiciels libres qui peuvent vraiment répondre à nos besoins de manière, je dirais, très pertinente et franchement plus stable, plus fiable, plus robuste que ce qu'on peut trouver souvent en propriétaire. Mais surtout plus respectueux des données personnelles, plus respectueux des business et des entreprises qu'on monte et qu'on gère. Je suis moi-même gérant d'une entreprise de 10 personnes, donc on est vraiment très concerné par ces sujets. Et clairement, on n'a aucun problème informatique parce qu'en fait, on a fait des choix de logiciels libres dès le début. Et c'est une culture qu'on a. Et franchement, on est très content de nos usages au quotidien. Et c'est quelque chose qui m'étonne, c'est à quel point les gens galèrent avec leur Windows, avec leur Office, avec leur machin. Et nous, on galère pas, donc peut-être ça peut aider les professionnels de savoir que ça existe. Et donc, en faisant des rencontres professionnelles, on montre aussi à des PME, à des TPE, à des entreprises locales, qu'il y a des usages, qu'il y a des solutions, qu'il y a des entreprises qui peuvent les aider à avoir des solutions maintenues, stables, fiables. Et donc, je suis très content de participer à ça et d'aller rencontrer un peu les camarades des différentes PME du libre de la région Rhône.
Merci beaucoup, Benjamin Sontag, de nous avoir partagé votre vision inspirante du domaine du libre.
C'est gentil, merci.
Benjamin Sontag, fondateur de la société Octopus, spécialisée dans l'hébergement et l'infogérance de serveurs, clôture cette série d'interviews. Il était 18h, la clôture de cette folle journée qui nous a montré toutes les possibilités offertes par le logiciel libre et les sujets que l'on doit encore creuser. Avant de partir, nous avons eu droit à un apéro bien mérité, avec encore des partages d'expériences et des échanges bien sympathiques. Je remercie toutes les personnes de ces rencontres pour l'accueil qu'ils ont réservé à l'équipe de l'émission et d'avoir participé aux interviews. Vous avez rendez-vous à Lyon, à l'hôtel de la Métropole, pour la 5e édition des rencontres professionnelles du logiciel libre, le jeudi 25 mai 2025. En attendant, vous pourrez bientôt écouter les conférences de cette année sur le site internet rpll.fr, qui est hébergé gracieusement par la société Webelis, qui était également présente au RPLL et qui avait proposé la conférence intitulée « Ne pas payer son site e-commerce ?»